ça. Et bien, bonjour à tous, merci d'être venus en ce dimanche midi. Les conférences à 14h, toujours un petit peu plus long, hein, mettre en place le temps qu'on récupère tout le monde. On va parler de fantasy cet après-midi, on va parler de fantasy et d'aventure, avec un très joli plateau, essentiellement masculin. Voilà, nous sommes entre testostérone cet après-midi. Bon, on verra, peut-être qu'on pourra aussi discuter de ce fait-là. Notre guest star étrangère, c'est David Anthony Durham, qui a écrit une excellente trilogie Acacia. Ouais, vous, ouais, super. Et pour traduire nos questions en français et ses réponses en anglais, qui traduira en français, l'homme au chapeau, Laurent Well, qui est également auteur et qui aujourd'hui est des traducteurs, il fait tous les métiers.
Ouais.
Faites-moi des questions en français.
Sinon, vous risquez d'avoir des réponses aléatoires.
À côté de lui, Olivier Perru, qui a signé Druid récemment et qui a signé aussi la série des Hauts Compteurs, prix elbakin.net, mais aussi plein d'autres prix. Donc, on vous recommande vivement. Auteur français, lui.
Oui, oui, oui.
Précise, bon, on peut le dire.
Hein. Voilà.
Je précise parce qu'en fait, Nicolas Cluzot, juste à côté, qui a signé les chroniques de la mort blanche et aussi les sept foudres d'Allah, est un auteur français, mais qui vit en Turquie. Donc, parfois, matine.
Et l'âme de Lala.
Les
Et l'âme de Lala. Et l'âme de Lala.
Ah, d'accord.
Enfin, bref, ça
fait sa fantaisie d'un petit peu d'Orient de temps en temps. Et à chaque fois qu'il est en plus sur un salon, il faut se dépêcher d'aller le voir parce qu'il amène des loukoums. Soyez dans les premiers la prochaine fois. Mais ce matin, on lui a niqué sa boîte. Donc, pas de chance. Et puis, Adrien Thomas qui vient de signer son premier roman qui s'appelle La Geste du Sixième Royaume et qui vient de recevoir hier, c'est tout chaud, le prix Imaginal. Donc, dans la catégorie française. Et qui en plus la particularité d'avoir des t-shirts qui tuent. Puisque hier il y avait un t-shirt Laisser la planète en sortant dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. Et aujourd'hui vous avez sauvé un vêtement. Voilà. Mais comme quoi l'aventure c'est parfois aussi dans le t-shirt.
Voilà.
Simplement, donc on va s'intéresser à l'aventure. On va simplement leur demander peut-être au départ qu'est-ce qui les motive pour écrire. De la fantasy, l'aventure c'est évidemment un élément essentiel, mais pourquoi est-ce qu'ils se placent dans l'imaginaire, ces auteurs, pour écrire leurs récits? On va poser la question à David Anthony Durham en premier.
Vas-y, pose-la bien ta question.
Eh bien, je viens de la poser. Pourquoi est-ce qu'ils écrivent de la fantasy?
Et à moi,
I wrote three novels that were historical novels first. And the last of those was a big novel about Hannibal and his war with Rome.
Ces trois premiers romans étaient des romans historiques, et le plus gros des trois et le quatrième a été l'histoire d'Hannibal.
And that was such an enormous story with so many characters and so many twists of fate and tragedies and triumphs.
Il dit que c'était une telle somme de tragédies, de personnages, d'aventures, de choses qui s'entrecroisaient.
That when I thought about what to do next, I wanted to do something that brought as much to it, but to somehow add something more as well.
Quand il s'est posé la question de savoir ce qu'il allait faire ensuite, il voulait faire quelque chose qui ajoutait à ce qu'il avait déjà fait, en même temps que d'être quelque chose d'un peu différent et construit.
In fantasy, I could still write intimately about individual characters.
Et dans la fantasy, il pouvait continuer d'écrire à propos de l'intimité de chaque personnage.
But everything else could be bigger and grander. The mountains are bigger, the armies are larger, the waves are higher, the monsters are more ferocious.
Et il dit que l'avantage avec la fantasy, globalement, c'est que on pourrait dire que les effets spéciaux peuvent être tout de suite beaucoup plus grands, les armées sont beaucoup plus énormes, les montagnes sont beaucoup plus hautes, les monstres sont beaucoup plus dangereux.
And I love discovering the world, because I don't make it all up ahead of time and then write it, I create it as I am writing the fiction.
Il dit que sa méthode d'écriture, en fait, c'est pas quelque chose auquel il pense pas en globalité à son histoire, il la construit au fur et à mesure qu'il l'écrit, en fait.
and it's fun, and it brings me to places like this.
Oui, il dit aussi c'est fun de le faire et ça lui permet de venir dans des endroits comme ici.
Même question pour toi, Olivier. Pourquoi est-ce que tu écris de la fantaisie et quelle est la place de l'aventure dedans?
Moi, j'écris de la fantaisie par goût du rêve.
Non, mais ça, il
l'a compris. Non, mais je sais, je l'ai. Et en fait, c'est mon principal moteur, c'est ça. C'est tous les rêves que moi je faisais quand j'étais gamin, où je tripais sur Le Seigneur des Anneaux, ces choses-là. C'est ça qui m'a emmené vers l'écriture, et j'avais envie d'écrire des histoires que j'aurais aimé lire enfant. Donc mon premier moteur, il est là, en fait. Et l'aventure là-dedans, c'est quelque chose de complètement naturel. On peut faire des récits très intimistes dans la fantasy, mais il y a toujours un grand mouvement. Même si parfois c'est juste faire quelques kilomètres, les personnages sont toujours transformés par le décor, par leurs aventures, les rencontres qu'ils font. Et la grande aventure et tout ça est vraiment un élément fondateur de la fantasy. Quoi. Donc le rêve et le mouvement, voilà. Donc, pour moi la fantasy est là.
Même question pour toi.
C'était quoi la question?
En turc.
Mais en fait, moi je suis arrivé à la fantasy surtout par le jeu de rôle à la base en tant que maître de jeu. Donc c'est par ce biais que j'ai découvert l'immense plaisir de raconter une histoire à des joueurs tout en leur faisant jouer en fait autour de cette histoire. Donc ma principale motivation, c'est la découverte et le dépaysement. En fait, un peu Anthony, tout à fait dans la lignée de ce que dit Anthony. C'est vraiment la découverte des choses en plus grandiose peut-être que l'historique, le roman historique, mais voilà, des choses plus merveilleuses, des choses qui dépaysent totalement en fait. Un peu comme on découvrait au XVIe siècle les nouvelles terres, les terres inconnues. Moi c'est pareil, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles terres aussi, de nouvelles possibilités. Et c'est l'aventure, pour moi c'est ça, c'est la découverte, avec des yeux d'enfant.
Pour moi, la fantasy, à part l'envie de devenir riche et célèbre, et comme Tolkien, tout ça, à travers le cinéma, à part ça, j'écris...
C'est un bon start.
À part ça, moi, c'est plutôt pour l'évasion, vraiment l'envie d'inventer mes propres règles, de faire en gros ce que je veux, de me sentir plus ou moins maître de ce que je veux écrire, de mes personnages, des événements, de tout, en fait.
Mais
un peu. si peu. Non, c'est vrai, j'adore le complexe de Dieu, et puis... Je joue avec les personnages. Non, pas que, mais généralement, je les laisse plutôt se débrouiller en fait. C'est comme ça que j'écris, je les laisse se débrouiller avec leur caractère. Mais pour moi, l'aventure, c'est vraiment m'évader, chercher quelque chose de nouveau auquel j'ai encore jamais pensé, auquel, dans l'idéal, personne n'a encore jamais pensé, on peut toujours rêver. Enfin, du coup, ouais, c'est vraiment ça. Vraiment m'évader.
Est-ce que vous êtes d'accord tous les trois quand Anthony dit que la fantasy c'est l'aventure encore plus grande, avec des monstres encore plus grands
C'est ça, à mon avis. C'est ça, à mon avis, mais c'est aussi, on peut utiliser la fantasy à tous les niveaux, bien sûr. Une enquête policière, un roman féministe. Mais je pense qu'il y a. Le lyrisme de la fantasy inclut ce genre de grandeur, justement. D'aller plus loin encore, je pense que c'est...
En fait, il y a ce côté dans la fantasy où il y a nos limites. On est maître de son propre univers, on n'a pas les règles du monde contemporain s'y appliquent pas, et quand on a besoin parfois de créer un truc grandiose, on n'a qu'à revoir ses propres règles et se dire, dans ce que j'ai créé, je peux inclure des choses incroyables. Et la fantasy, la science-fiction est peut-être plus pragmatique des fois, où on peut aller très très loin, mais on est tenu par des fois donc les règles de la science. La fantasy, si on a des points de départ magique ou pas toujours magique, mais dans les univers concrets, on n'a aucune limite à part celle qu'on se fixe soi-même. Donc les monstres plus grands, les décors incroyables, des continents démesurés.
Tout en restant cohérent, en essayant de rester cohérent.
Il y a une certaine démesure dans la fantaisie, on peut aller jusqu'où on veut, mais après c'est pas forcément une règle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des aventures qui sont au contraire beaucoup plus intimes, beaucoup plus intimistes, beaucoup plus réduites, qui peuvent se passer dans simplement une seule ville pendant tout un bouquin, et ça reste une grande aventure, même si ça dépasse pas...
Yeah, I agree. It can be quiet as well, and the smaller stories can be fantastic as well.
Mm-hmm. Il dit qu'il est d'accord.
il dit qu'il est
d'accord qu'on n'est pas obligé. Effectivement, c'est ce que tu disais exactement. On n'est pas obligé d'aller très loin. On peut rester intime.
But I believe in making things So making you hopefully care for my characters, and then making things really hard for my characters. Mm. And in fantasy, things can be really, really hard.
Really tough. Yeah. Il dit que ce qu'il aime bien aussi, c'est emmener ses personnages d'une manière à ce que, comme on dirait trivialement, ils en chient un peu, quoi, quand même. plus que dans la vraie vie. Quoi.
Traduction est nickel. Hein.
On parle de souvent de souffle épique dans les romans de fantasy, on lit ça hein, dans les chroniques. Il y a un souffle, ça nous a emporté. Comment ça se travaille, ça? Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est une conséquence de son récit presque malgré soi?
Moi je suis assez chaotique dans ma manière d'écrire, c'est-à-dire que je fonctionne sur la base du post-it sur le frigo, c'est-à-dire faut penser à faire ça, faut penser à faire ça, faut penser à faire ça sur mon écriture, et en gros mes personnages ils ont des caractères qui se définissent relativement rapidement au début de l'histoire, et ensuite c'est limite ils débrouillent. Après j'ai juste à écrire ce qu'ils sont en train de faire, parce que généralement ils doivent être d'un point A à un point B, et très souvent ils y vont pas. Ils dévient parce que leur caractère fait qu'ils peuvent pas aller au point B, ils vont à un autre point, etc. Donc au final, moi je suis très chaotique à ce niveau-là.
C'est pas construit avec un plan.
C'est pas construit précis à l'avance. Enfin, je sais qu'il y a des gens, il y a des auteurs qui préfèrent avoir des plans, qui préfèrent avoir des synopsis, des choses dans ce genre-là. Moi j'avoue, j'y arrive pas. Je préfère découvrir quasiment en même temps que j'écris où va l'aventure en fait. Et le souffle, moi je le fais. Il y a un second souffle parce que tiens, j'ai une nouvelle idée, je reprends un peu. Plutôt que la première.
Moi, je suis beaucoup plus carré, cartésien, c'est-à-dire dans le sens. Je suis cartésien dans le sens. C'est un peu bizarre dans le Final Fantasy, mais je fais mes plans de manière très détaillée jusqu'à la fin. Je peux changer des choses de temps en temps dans le récit, mais bon, dans le récit, pardon. Non, je suis très détaillé en fait. Mais le souffle, en fait, il vient à l'écriture en fait. C'est surtout dans les batailles que je sens le souffle de la bataille. Quand je vois l'image cinématographique dans ma tête, en fait, je me sens presque investi d'un souffle en fait que je retranscris dans l'écriture. Mais le souffle, ça peut être pas que les batailles d'armée, ça peut être aussi une quête personnelle ou une enquête policière, quoi. Mais c'est, je sais pas, moi c'est. J'arrive pas à définir en fait. Le souffle que définis toi, j'arrive pas. Mais c'est tout dans ma tête en fait au niveau image. Les images sont prenantes ou pas, ou marquent mon esprit et je les retranscris. Et s'il y a un souffle, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, ben, le lecteur me le dira. Donc, critique.
Tu planifies toi comment tu
En fait moi j'écris à l'instinct, à l'intuition, et je m'interdis de prendre des notes parce que le fait d'écrire ça fixe les idées. Donc tant que je pense, l'écriture ou l'histoire est ouverte, et dès que je commence à écrire je l'arrête. Et en fait j'essaye d'écrire le plus tard et le moins possible pour que l'histoire soit toujours une espèce de magma ouvert où on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et le souffle épique, je serais tenté de dire, en fait, c'est quelque chose qui est presque obligé. C'est un passage obligé dans un roman de fantasy. Quand on voit un film d'horreur, il y a un moment, le passage où on voit une nana avec des gros seins qui passent. Il y a ensuite la nana qui se fait éviscérer. Non, mais il y a des trucs obligés. Quand on voit un film de science-fiction, il y a un moment, il y a le grand vaisseau spatial, il y a un plan sur l'espace. Quand on fait de la fantasy, à un moment, il y a la grosse baston. Ça peut être juste quelques gars, ou alors ça peut être une armée. Et le souffle épique, alors, où ça vient tout seul à l'écriture, quand on est pris par son histoire, ce qui nous arrive à tous, je pense, on s'y croit, on est au milieu de la bataille, on écrit, on visualise le truc, on a la musique. Et ça vient des fois très naturellement, et des fois il faut peut-être le contrôler, ce truc là et se dire tiens, il y a déjà des tas de gars talentueux avant moi qui ont écrit des batailles dantesques, alors comment faire aussi bien et différent? Et c'est donc là il y a le côté instinct qui ça se part tout seul, ça s'écrit, et ensuite il y a le côté travail où il faut aller chercher les petits détails. Donc voilà, c'est un mix entre le contrôle et l'intuition.
D'accord. David, c'est pareil, vous planifiez l'aventure.
I certainly have the core inspiration and the inciting event, the assassin arriving in town, for example.
Il dit qu'il a une bonne idée générale de ce qui se passe et de la manière dont ça doit se passer. Par exemple, dans Acacia, le point de départ, ça devait être cet assassin qui arrive en ville.
And I write forward in the early chapters, finding my way into the world and coming to know the characters.
Et ensuite, il avance dans l'histoire, pour, je dirais, pour s'y sentir à l'aise et donc pour voir où l'histoire va, pour commencer dans les premiers chapitres comme ça, quoi, en allant comment dire, graduellement dans l'histoire.
But sometime fairly early in the process, I get an idea, a scene in my mind that I know is the last scene of the book.
Et quelque part dans le processus d'écriture, tout d'un coup, il a une idée à propos de la fin et il sait que ça, ce sera la scène de fin du roman.
And I don't always know how I get from where I am then to that last scene in the book, but it's the challenge has been set. And writing the book is going to be getting me and the characters there.
Il dit qu'il sait pas vraiment, il a compris ce qu'il faisait au début et il sait où est-ce qu'il veut aller à la fin. Mais à partir d'un certain moment dans le bouquin, il y a tout un cheminement à faire entre là où il se trouve et pour aller sur cette dernière scène. Voilà. Et donc là, il ne sait pas vraiment où il va, mais il le construit en y allant, quoi.
And with writing a series, a trilogy for the first time, about the time I finished this one, I had the vision of the last scene of the third book.
Donc, Acacia est une trilogie et au moment où il a terminé le premier tome, il avait la scène de la fin du troisième tome en tête.
It's really the second to the last scene.
Really the second to the last scene?
Yeah. In this one, the second to the last scene was that scene.
Oh, c'est le deuxième, je ne vois pas le bouquin. Dans ce bouquin-là, c'est à partir de la deuxième scène jusqu'à la dernière scène.
But the thing is, The characters who are in that scene, one of them, there are three characters, one of them is a character from the early books, two of them are characters who weren't even in the book up to that point.
Il dit que dans le deuxième, il y avait un des personnages qui était dans le premier tome et que deux autres des personnages n'existaient pas dans le premier tome.
So what happened to the ones who are gone? Where did these two characters come from? Again, it's like I set the pieces and had a long journey through three books to make that all make sense and to get to that point.
So il dit, pardon. Alors, il dit que il y a d'autres personnages dans le premier tome. Donc la question est, qu'est-ce qui va se passer avec ces gars-là, ces filles d'ailleurs. J'ai lu le premier, moi j'ai lu les romans. Donc je lui fais confiance, il sait de quoi il parle. Donc il y a les autres personnages du premier tome, pour l'instant ils n'étaient pas là. Il y avait deux nouveaux personnages dans le deuxième tome, il fallait en faire quelque chose, et il ne savait pas encore ce qu'il allait faire avec les personnages de là, mais il savait où il allait finir dans le troisième.
Nicolas, je te voyais acquiescer à ce qu'il disait, c'est la même chose pour toi, tu vois déjà, quand tu commences un bouquin, tu vois déjà la dernière scène.
Oui, non, en général, oui, je vois surtout beaucoup de scènes en fait, mais je vois déjà très bien la dernière en fait, comment ça va finir. C'est généralement cataclysmique. En fait, non, pas cataclysmique, où c'est vraiment quelque chose d'épique justement. Tu sais confirmer fin de façon à ce qu'elle soit épique et surprenante. Pour moi au moins, pour le lecteur après, je sais pas, mais en tout cas, pour que ça me surprenne moins. Et je suis tout à fait d'accord. Et en fait, je pensais à Asimov qui disait dans une interview qu'il écrivait la première et la dernière scène. Ils écrivaient en fait. Il parlait de la première à la dernière, après, il improvisait totalement. Parce que je travaille pas comme ça du tout. Moi, j'ai vraiment un plan défini que je peux changer, comme je disais tout à l'heure, mais il est défini quand même à l'avance.
Bah, Olivier parlait des passages un peu obligés hein, dans la fantasy. C'est une question générale. On parlait de la fille au sein qui se faisait éviscérer dans l'espace par un troll. Est-ce qu'il est qu'on écrit de la fantasy et qu'on écrit avec de l'aventure, est-ce que justement les archétypes, on arrive à s'en détacher ou est-ce qu'au contraire on en a besoin pour rédiger son roman?
Les archétypes, pour ma part, moi je trouve ça sympa de les exploiter, c'est-à-dire qu'ils existent certainement pour une raison, c'est-à-dire que c'est des personnages que les gens apprécient de manière générale. Toujours le nain, ronchon, l'elfe, débile, etc. Enfin, limite à la Meulebeuc, hein, mais c'est un peu le même principe. Le grand sage, quelque part, qui se balade et qui fait le bien et tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir les détourner, ces archétypes-là, c'est-à-dire passer, trouver que finalement le nain buveur de bière est finalement beaucoup plus subtil et qu'il a une histoire cachée, et qu'il a un passé d'ailleurs très intéressant, que l'elfe n'est pas si conne qu'elle en a l'air et qu'en fait elle a finalement de grandes idées, des pouvoirs inconnus, cachés, etc. Ils ont tous des destins en fait, auxquels on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que la première rencontre peut dire encore un, et au fur et à mesure on se rend compte que ah bah non finalement c'est pas du tout comme ça qu'on aurait vu au premier abord. Moi j'aime bien les archétypes pour pouvoir justement en jouer et essayer de détourner. Après c'est vrai que si les archétypes ne sont pas détournés, je préfère avoir un personnage original plutôt qu'un énième jeune héros de 14 ans qui découvre une épée magique dans son jardin.
Je dirais pas que c'est la mode en ce moment, mais en fait, on essaie de détourner justement les archétypes pour surprendre le lecteur. George R. R. Martin fait très bien ça, en fait. Hein. Les personnages qui sont très patibulaires au début, méchants, qui ont l'air d'être vraiment des traîtres, etc. Ils ont toute une histoire derrière qui explique leur comportement et qui les rend sympathiques au bout d'un moment. C'est ce que j'essaie de faire aussi un petit peu, donc enfin, on essaie tout de faire, on devrait tourner un peu, détourner, pour pas tomber dans les clichés, en fait, éculés, en fait. Quoique, cliché, moi j'aime bien aussi lire quelquefois un roman où il y a un archétype qui me plaît, quoi, et donc que je vais suivre, qui ressemble à un cliché, mais qui n'est pas un cliché. Ça dépend de la forme dont utilise l'auteur, en fait, pour emmener le personnage.
Olivier, c'est pareil pour toi sur cette question des archétypes?
En fait, j'allais dire, c'est quasi obligé de travailler avec des grandes figures de personnages qui ont déjà été faites plein de fois. Et le but du jeu pour nous, c'est d'arriver à, bah, comme tu disais, reprendre vraiment les grands classiques ou des personnages qui s'apparentent aux grands classiques et d'arriver à surprendre nos lecteurs avec un personnage dont toutes les réactions sont attendues. Ça, c'est un jeu intellectuel qui est super difficile et exigeant. Et quand on arrive justement où les gens disent bah, « j'ai commencé votre bouquin au début, classique et tout », et puis à un moment donné, il y a un truc qui se passe, ça devient surprenant. Et là, on sait qu'on réussit quelque chose. Et de toute façon, même si on voulait aller à l'inverse des grandes figures, c'est-à-dire vraiment travailler sur des trucs 100% originaux, ce que je crois impossible, parce qu'on est toujours rattaché à des choses qui ont déjà été faites, l'histoire devient contraire à ce qu'elle devrait être, et du coup, après, c'est un exercice trop contraignant où il faut être un super génie pour écrire à l'inverse de tout ce qui a été fait et réussir une bonne histoire. Quoi.
Ouais, mais ça veut dire qu'on ne peut pas être original en fantasy ?
Si, on peut, mais en fait, ça devient de plus en plus dur parce que y a beaucoup de choses qui ont été faites, et alors il faut, je crois, hein, peut-être je me trompe, il faut travailler dans les créneaux qui ont déjà été ouverts, il faut aller un peu plus loin, ou aller chercher la petite idée qui fait que finalement, votre elfe ou votre nain buveur de bière, il a ce truc en plus qui fait qu'il est différent de l'elfe ou du nain qui a été fait dans les histoires précédentes. C'est peut-être là-dessus, voilà. On révolutionne pas, on réinvente.
Vous êtes d'accord, David ?
Yes, I do, I do. I ended up having archetype characters as well. I don't see how you can avoid it, but I was really interested in having their archetypes not always work for them.
Il dit qu'il était obligé d'avoir un petit peu de ces archétypes aussi dans son pour ses personnages, mais il dit que il voyait aucune raison pour que ces personnages et ces archétypes soient à leur avantage.
There's a character in the first book that falls into the trap of believing the myth of himself and makes a decision based on that, which does not turn out the way he wanted it to.
Il y a un personnage dans le premier tome qui entre dans son propre jeu en croyant à son propre destin, et en fait ça se retourne contre lui.
On the other hand, there were some things I did that were going to defy fantasy. For example, in this book, there's no dragons. I don't even think the word dragon is mentioned in the book at all.
True.
Okay.
Non, il dit par exemple dans ce roman, il n'a pas utilisé tous les codes, etc. Donc dans le premier tome, il y a pas le mot dragon une seule fois, quoi.
But then by book two, there is something that's kind of like a dragon.
Et dans le deuxième tome, il y a quelque chose qui est un peu comme un dragon.
And then by book three, the dragons are all over the place.
Dans le troisième tome, il y a des dragons partout, quoi.
So the genre got me and it pulled me into shape.
Il dit que le genre, la fantasy, l'a chopé et puis l'a aspiré à l'intérieur.
Une petite question, on parlait de l'aventure du point A au point B, de la première scène à la dernière scène, donc avec des péripéties au milieu. Est-ce qu'il faut que chaque péripétie ait un sens, qu'elle apporte quelque chose à l'histoire, ou est-ce qu'on peut cumuler les péripéties pour le fun ou simplement pour faire un personnage? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un sens dans tout ce que
tu fais? Peut-être pas forcément un sens, mais une raison que la scène soit là, en fait. J'ai un peu du mal avec les scènes qui servent à rien, c'est-à-dire, ça m'arrive d'écrire une scène pour me défouler, tel personnage met un gros coup de hache dans la tronche de celui-là, et puis c'est rigolo, ça m'éclate bien. Et après, je me rends compte que ça avance à rien, ça amène rien au bouquin, ça sert pas grand-chose. Après, c'est toujours sympa, quand on écrit, d'alterner des moments calmes et des moments d'action. C'est-à-dire qu'un bouquin qui, du début à la fin, c'est la guerre et il se tape dessus, c'est lassant, et un bouquin où il se passe pas grand chose, où il faut que la manière de raconter derrière suive, sinon ça passe pas de pas avoir plus d'action. Donc moi j'ai tendance à penser qu'il faut que les scènes doivent un minimum servir à quelque chose, mais pas forcément qu'elles fassent avancer l'histoire, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir simplement à alterner. Ça fait quand même 5 chapitres qu'on raconte, je sais pas, la grande histoire des elfes depuis le début du monde. Peut-être passer à quelque chose d'un peu plus péchu pour que le lecteur se lasse pas et passe à autre chose. Donc, du coup, on va raconter par exemple une bagarre, dans une taverne ou une guerre qui fait partie de l'histoire, qu'on aurait pu ne pas raconter parce qu'elle n'a pas forcément. Enfin, elle sert plutôt de décor que vraiment d'histoire, mais qu'on raconte quand même parce qu'on se dit j'avais envie d'écrire et puis ça change un peu. Enfin, voilà, donc, il faut qu'il y ait quand même un but, mais pas forcément une avancée.
Ça veut dire qu'il y a aussi une question de rythme.
Oui, il y a un rythme à tenir, mais je pense que le sous-titre, justement, c'est compliqué de tenir un peu. Plus alterner les moments de calme et de calme avant la tempête. En fait,
tout pareil que d'Adrien, mais je vais juste ajouter une chose, c'est qu'en fait, moi, quand je suis lecteur, j'aime bien à chaque fin de chapitre m'attendre à quelque chose vraiment de surprenant et de vouloir à tout prix voir la suite derrière. C'est comme ça que je construis aussi mes histoires pour satisfaire mes envies de lecteur déjà. Et donc, je sais toujours qu'il y a un appel au chapitre suivant, toujours que ça a un sens, donc toujours. Il y a toujours un sens, une surprise. Un événement qui fait qu'il y a un retournement de situation ou pas, mais c'est quelque chose qui surprend le lecteur et qui l'emmène encore plus dans le roman. Il faut toujours dans le sens de l'intrigue, donc, comme disait Adrien, où tout est un jour intéressant.
C'est la même chose pour toi, Olivier ?
Là, c'est difficile d'aller contre leurs avis. J'aurais voulu, hein, mais... et non, en fait, une bonne histoire, elle s'écrit toute seule et toutes les scènes se justifient par rapport à tout ce que disaient les gars entre le point A et le point B. Même si on n'a que ces deux morceaux, toutes les scènes au milieu vont se justifier les unes les autres et peut-être que la limite de la scène inutile, ça arrive dans tous les bouquins, enfin, j'imagine, et c'est au moment où on ennuie le lecteur. C'est-à-dire que quand le lecteur se dit « ça fait 50 pages qu'il me parle de son truc et tout ça », et donc là, on sait que peut-être on a été trop large, on s'est trop exprimé, et là, on tombe dans la scène inutile. Et donc, il y a un travail de concision à faire, peut-être, raccourcir certaines choses, et on peut alterner action, intime, ou faire un récit hyper intimiste sur 300 pages, et tout d'un coup, avoir un truc qui se passe, et sur les 100 dernières pages, ça devient catastrophique. Du moment que tout se justifie et qu'on n'ennuie pas le lecteur, tout prend un sens en fait. Parfois un sens caché, on peut faire 300 pages et au final c'est la dernière page qui vous explique le truc.
David, on te dit du rame, même question, tout a un sens.
Everything does everything to have sense or make sense in the story.
Yes.
Oui.
But I agree very much with Nicolas about wanting to have a cliffhanger at the end. I'm not exactly a cliffhanger person, but every time it gets to the end of a chapter, I want readers to go, what's going to happen next?
Mm. Il dit qu'il est d'accord avec les petits camarades, et notamment Nicolas, sur le fait que à la fin de chaque chapitre, il doit y avoir quelque chose qui accroche le lecteur. Je ne sais pas si le terme cliffhanger vous parle. C'est quelque chose qui doit emmener le lecteur ailleurs et lui donner envie de tourner la page suivante.
One of the things that I feel like I've learned more and more as I get older and I write more is to vary a narrative with light moments and action-packed moments and with entertainment. Okay.
Une chose qu'il a apprise en écrivant, c'est que il fallait alterner les moments forts, les moments lents, les scènes à la limite drôles, pour qu'il n'y ait jamais d'ennui dans la lecture.
And I want it to all make sense and be important to the narrative, but I also want it to entertain in a way that rewards the reader.
Il dit que effectivement tout doit. Il veut que toutes les choses aient un sens et aient un rapport avec l'histoire, etc. Dans le cadre de l'histoire, mais il faut aussi que ça distrait le lecteur.
My earlier novels were fairly heavy and serious, not much of a laugh in them at all before these.
Il dit que ces romans avant cette série-là étaient beaucoup plus linéaires, avec beaucoup moins de fun, hein, je veux dire en anglais, bon, avec beaucoup moins de fun que celle-ci.
I believe fantasy has helped me to still continue to write serious themes, but to also learn to have more fun and to put that in the books.
Il dit que la fantasy lui a permis aussi de continuer d'écrire sérieusement, mais aussi d'y additionner des portions distrayantes.
Et en même temps, je vais faire l'avocat du diable, enfin, soit tout a un sens, enfin, il y a quand même de gros pavés, des grosses séries en fantasy. Alors est-ce que c'est en fantasy, plus c'est long, plus c'est bon? Ou comment ça se fait pour vous? Pourquoi est-ce qu'en fantasy on écrit autant? Alors Nicolas, c'est un peu particulier, c'est qu'il vient de publier une nouvelle. Peut-être qu'il va nous dire qu'on peut faire court en fantasy.
Personnellement, oui, moi j'ai tendance à écrire beaucoup. Après, je pense que ça dépend du contexte, c'est-à-dire que le principe des séries, c'est que les premiers bouquins sont généralement plus fournis que les suivants, parce que en premier, on doit tout expliquer le monde, les règles, la magie, la géographie, les royaumes, les structures politiques, etc. Donc on a tendance à s'étaler, parce qu'on veut que pour moi en tout cas, moi je veux que les lecteurs comprennent tout bien de quoi je parle. Donc effectivement, j'écris à rallonge. Je pense que quand je ferai le deuxième de ça dans le même monde, mais à un autre moment, je pense pas qu'il sera aussi épais parce que j'aurai moins de choses à leur raconter et je me dirais, ils avaient qu'à lire le premier si ils veulent comprendre. Mais j'ai tendance à penser que si ça s'étale trop, ça finit peut-être par diluer aussi l'intérêt du lecteur. C'est-à-dire que moi j'ai lu des grandes séries, par exemple La Belle Gariade et La Malhorée de David Hennings, qui sont des bouquins. Très sympa, les personnages très sympas, mais au bout d'un moment c'est long et c'est un peu toujours la même chose. Et j'avoue que si j'aime le style, l'histoire a fini par limite m'ennuyer. Parce qu'on trouve toujours les mêmes personnages, les mêmes réactions intéressantes ou stupides, et des personnages, et au bout d'un moment c'était un peu lassant.
Mais en fait, moi je me sens aussi bien dans la forme longue que dans la forme courte. Donc, comme tu disais, cette autre là qui est une novella de 90 pages, mais en fait j'aime beaucoup les petites nouvelles, même en fantasy. J'ai mes deux personnages fétiches qui sont Armolin et Derbe, qui sont des magiciennes. Je leur fais des petites enquêtes policières magiques, enfin des énigmes magiques. C'est dans les 20-30 pages, donc bon, ça peut se travailler, que ce soit lourd ou. Enfin, et dans la nouvelle, on peut mettre des éléments du monde qui montrent qu'il y a quelque chose derrière de plus grand. Et qui ont autant de force, je pense, qu'un roman, enfin, qui peuvent avoir autant de force qu'un roman. Je pense que la fantasy, que n'importe quel genre littéraire, peut s'adapter à la forme courte comme la forme longue. Mais bon, pour revenir à ta remarque sur les longs cycles, etc., je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur un monde, donc les gens prennent leur temps. Et c'était mon travers d'ailleurs, enfin mon travers. C'était la manière dont j'écrivais au début, j'écrivais énormément. Je décrivais énormément mon monde. Mais maintenant que j'ai bien établi mon multivers, c'est vrai que j'ai moins tendance à m'arrêter sur les détails. Quoi. Maintenant je suis plus conscient.
Ouais, Olivier, pareil.
En fait, je suis d'accord avec ça, ou peut-être que le premier bouquin, on a besoin de mettre beaucoup de choses dedans. Et je crois aussi que les auteurs de fantasy, pour la plupart, ont la culture du pavé. Parce que la fantaisie est un univers où on peut tout imaginer. La limite, c'est l'imaginaire. Donc, quand on écrit un bouquin, si on vous dit nos limites, bah, on écrit, on fait des pages. Et on a tendance à créer des personnages, à créer des décors, à créer une mythologie, à créer la mythologie avant la mythologie. Et donc, bah, c'est coûteux en pages. Et ça fait qu'on peut très vite écrire sur un bouquin de 500 pages, on peut en écrire 100, qui sont des pages qui nous expliquent juste la géographie ou la géopolitique d'un royaume. Et donc, tant que ça trouve sa place dans l'album, bah, ça coûte rien, ça fait plaisir. Et c'est sûr que ça fait au final des bouquins plus gros. Donc je crois qu'il y a tout ce que disent les gars, le premier tome, c'est vrai que c'est important d'en mettre beaucoup. Et ensuite, il y a ce truc de, quand on les bouquins que nous on lit, je sais pas, George Martin ou Robin Hobb, quand on voit les bouquins en VO, les livres font 1000 pages, 1200 pages, donc on lit presque petit joueur avec nos 600 pages. Et donc du coup, voilà, je crois qu'on a des modèles quelque part qui nous donnent un chemin à suivre. Donc voilà, plus, on, plus c'est long, plus c'est bon, ouais, je suis d'accord.
C'est une question qu'on peut d'autant plus poser à David, qui a fait des romans historiques en one shot, qui est quand même assez gros, mais là il a fait carrément une trilogie pour la fantasy.
Yes, so it's a question that could be asked to you because you have made historical novels in short book, and then now you've got yourself into a trilogy, a huge trilogy. So you know, what do you think about how you can write short book?
I think the genre is open to all possibilities.
Il pense que le genre fantasy est ouvert à toute possibilité.
I can think of a number of recent fantasy novels that were had quite a reasonable number of pages, like 300.
Il pense à un certain nombre de bouquins de fantasy récents qui avaient des nombres de pages qu'on va dire raisonnables, aux alentours de 300 pages.
Ken Scholes. Saladin Ahmed, it's a really good, what?
No, go on. No, sorry, I just don't know the writers.
Okay, well, I'm just giving you the those are the names. And Jeff Saylard's has a book coming out that, it's not very big, but it's an epic fantasy.
Pardon?
Non,
il dit qu'il y avait, je connais pas l'auteur, si vous connaissez, vous le dites à ma place, qui fait des romans relativement courts et qui passent bien, quoi.
So it can be done.
Alors, ça peut être fait.
But when I wanted to embark on an epic fantasy, I took the word epic seriously. And
alors quand il s'est embarqué dans l'aventure d'écrire de la fantasy épique, il a pris le mot épique au pied de la lettre.
If I was going to do all the work to build this world and create the mythology, I wanted to be able to get something out of it as well. So it's worth my time and the reader's time.
Ouais, s'il devait rentrer dans les détails de créer un monde avec tout ce que ça veut dire, il fallait que ça paye à la fin, et pour lui et pour le lecteur.
And if you're doing it right, you fall in love with what you're doing, with the world, the characters, and.
Et si vous le faites bien, en fait, vous tombez amoureux de ce que vous avez créé, le monde, les personnages.
And hopefully readers do too.
Et avec un peu de chance, le lecteur aussi.
And I would say never with my earlier books, no one ever asked me, are you going to write the sequel to my first book or my second book or my third book? With these, it's always, is there going to be another one?
Mm. Il dit avec ses premiers romans, jamais personne lui a demandé, est-ce que vous allez écrire une suite à ça, à celui-ci? Alors qu'avec avec ceci, ça lui arrive tout le temps. Est-ce que vous allez en écrire encore un autre?
Vous allez en écrire encore un autre?
Is that a secret, right?
It's not next, but even in my mind, I haven't said goodbye to the characters, and I might come back to them at some point.
Il dit peut-être pas le prochain. Mais il ne va pas laisser tomber les personnages et il y aura peut-être quelque chose plus tard.
Une petite question, alors on vient sur l'aventure, et on pense notamment aux quêtes initiatiques hein, qui sont pléthores en fantasy. Est-ce que pour vous la fantasy, c'est une question que je lance un petit peu à la cantonade, est-ce que pour la fantasy, l'aventure c'est aussi la transformation du personnage? Est-ce que la fantasy est une littérature de transformation?
De transformation, oui, d'évolution surtout, oui, c'est vraiment le principe de la fantasy épique et d'aventure, c'est que il arrive plein de trucs aux héros, généralement ils s'en prennent plein la tronche, et d'une manière ou d'une autre, ça finit forcément par les modeler, par leur faire changer leur caractère, parfois même leur physique, une bonne blessure qui leur enlève le bras, ça agit quand même aussi bien au niveau de la psyché que sur le niveau physique. Oui, je pense que la littérature, l'aventure fait évoluer les personnages, les fait changer de comportement. J'ai souvent vu des personnages qui passent de petites gamines capricieuses, de sales gosses ou de gamins pénibles à des gens gentils, raisonnables, intéressants, intelligents, qui deviennent plus sensibles, des gosses de riches qui deviennent sensibles aux problèmes des pauvres, etc. Enfin, il y a toujours une évolution, à mon avis, et qui est effectivement induite le plus souvent par l'aventure.
Pareil pour les autres, vous êtes assez d'accord avec ça?
Pareil, chaque fois. Il a tout dit, donc pour moi, maintenant que m'en donne.
Oui, Anthony, vous êtes d'accord avec ça? David, pardon.
Transformation is important to me, but it's not necessarily a matter of someone becoming something they weren't before.
Il dit que la transformation c'est quelque chose d'important, mais ça ne veut pas pour lui dire spécifiquement que un personnage doit se transformer en quelque chose qu'il n'était pas avant.
It can be more about them becoming themselves in different ways.
C'est plutôt qu'ils deviennent eux-mêmes d'une manière différente.
So as the characters, for me, as they change and appear to change, those changes are always based on something that was fundamentally in them the whole time, but they're responding to the world in different ways.
Il dit, au long de l'histoire, les personnages, en se transformant, vont se transformer peut-être en quelque chose qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes et qui va les faire réagir différemment par rapport à leur environnement au fur et à mesure de l'histoire.
And for me, it's always about challenging the characters with big threats, big burdens, big obstacles to be met, all the while asking them to become the best person that they can be, if at all possible.
Il dit que au fur et à mesure, les personnages vont être, il va charger ces personnages avec des fardeaux, avec des dangers, avec des menaces, pour que en fait ils s'améliorent d'eux-mêmes, ils deviennent le meilleur d'eux-mêmes.
They don't always do that, but I give them the opportunity.
Et ils font pas toujours ça, mais ils leur laissent la possibilité de le devenir, de le faire.
Il nous reste une petite dizaine de minutes. De toute façon, vous êtes bloqué ici, il pleut. Est-ce que vous avez des questions à poser aux auteurs? Ou est-ce qu'on peut appeler
10 minutes left, and anyway, we'll start here.
Do
you have any questions?
Une petite question.
Alors, il y a 10 livres à gagner pour le premier qui pose une question. Bon, c'était une plaisanterie, bien sûr. Okay.
Il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes dans l'écriture. Là, vous êtes tous des hommes et vous jugez tous que la bataille, c'est un élément essentiel en fantaisie. Et quand on lit des femmes, il y a souvent pas une scène de bataille, ou alors juste un duel.
Je vais vous présenter Justine Aubry, elle va dire pas la même chose.
la question est intéressante, est-ce qu'on a besoin de bataille? Non, mais moi, il y a des histoires.
Dis-moi, Adrien.
Il y a des histoires où il n'y a pas eu de bataille, c'est juste une enquête, simplement. Et justement, les femmes ont un rôle important, parce que ce sont elles qui résolvent le problème, en fait. Les autorités masculines ont toujours été, au reste, elles ne peuvent pas le résoudre, donc elles font appel à des magiciennes. Mais en fait, chez moi, j'ai beaucoup de. Moi, Adrien, j'essaie de garder une égalité femmes-hommes, et dans les deux cas, les deux genres, en fait, les hommes et les femmes peuvent être à la fois des combattants ou des savants, des érudits. Au moins, il n'y a pas de différence. En fait. J'essaie de garder une égalité totale.
Moi, je suis assez d'accord. Au final, la bataille, le principe de bataille, c'est, à mon avis, pas forcément quelque chose de masculin. Déjà parce que, généralement, c'est pour les femmes qu'on se bat, parce qu'au final, il y a une raison hein, derrière ça. Mais non, effectivement, je pense que le conflit est, à mon avis, l'un des moteurs de la fantasy, qu'il soit armé ou non. Il y a aussi pas mal de bouquins de fantasy, notamment, qui parlent de conflits plus politiques, plus de manipulation, de trahison, de coups de poignard dans le dos, mais où il n'y a pas vraiment de scènes de guerre, de bataille, etc., qui sont quand même très intéressants, mais qui sont écrits, à mon avis, aussi bien par des femmes que par des hommes. Mais je pense que plus que la bataille, c'est le conflit qui est vraiment au centre de beaucoup d'aventures. Tout le monde était d'accord, au final, il n'y aura pas besoin de
plus. Moi, je suis assez d'accord avec les gars et avec la madame. C'est vrai que, alors peut-être je vais dire une bêtise, mais comme les auteurs de fantasy, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gars qui écrivent, quelque part, c'est le point de vue des gars qui a imprimé le côté bataille, tout ce qui est épique, rose baston et tout ça. Donc c'est très primaire hein, comme réflexion, mais c'est que, ok les gars, écrivez un livre de fantasy, qu'est-ce qui se passe à la fin? Baston général. Donc, Donc du coup, quand on a écrit 2-3 bouquins comme ça, après on se dit peut-être, comment je vais faire finir le troisième, je vais peut-être trouver un truc qui sorte. Donc c'est juste, c'est vrai que sans dire que nos bouquins sont primaires, mais nos réactions primitives dans l'écriture nous amènent à Des fois, on se tape dessus, ça fait du bien, on écrit un truc bien, bien joyeux, et puis ensuite.
Ça fait plaisir d'écrire une bataille.
Do you find fun in writing battles?
Do I find
fun into writing battles?
No, they're hard.
Non, c'est difficile.
But I do think that sometimes people read a fantasy and think it had a lot more battle in it than it actually did.
Parfois, il y a des gens qui lisent de la fantasy et ils pensent, ils ont l'impression qu'il y a plus de batailles qu'il y en a en fait dans le bouquin.
I'd even say, tell me if you disagree, but George R. R. Martin and the beginning of Ice and Fire.
Dites-moi si vous êtes d'accord, mais George Martin dans le début de La glace et le feu.
Non, le
trône de fer. Pardon.
There are battles that happen, but they pretty much all happen off screen, and you find out about them afterwards.
Il dit qu'il y a des batailles qui se produisent, mais elles sont pas sur l'écran entre guillemets. Elles sont à l'extérieur de ce que vous êtes en train de lire et vous en apercevez, vous tombez dessus plus tard.
Le résultat.
When he did get around to doing actual battle on the page, he did it really well though.
N'empêche que quand il a vraiment décidé d'écrire une bataille, il s'est vraiment bien débrouillé avec ça. Quoi.
The same time for myself, there are several times in the series when there are two massive armies massed against each other, ready for battle.
Dans son premier tome, il y a deux armées énormes qui sont rassemblées l'une face à l'autre, qui sont prêtes à la baston.
But then there's something else that happens that actually determines the fate of the day.
Et en fait, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se produit qui va en fait déterminer le destin de la journée.
So there are many ways to handle battle and conflict, and it's not always the most obvious.
Alors il y a plusieurs manières de décrire des batailles et des conflits, et c'est pas toujours le plus évident qui est le meilleur.
Est-ce que quelqu'un a encore le temps pour une petite question?
5 livres. 6.
Monsieur le Lavant. Oh, pardon, excusez-moi. Allez-y, bien fort.
Peut-être que la bataille n'est pas un élément capital, mais en tout cas, avec lui, M. Joubi, c'est que l'aventure, c'est forcément c'est le gore, le dur. Parce que les personnages ont toujours des circonstances atroces, monstrueuses en général, que si on visualise un peu.
Est-ce que l'aventure est toujours gore? Est-ce qu'il faut que ça gicle un petit peu?
Ça dépend de comment ça gicle. Mais...
L'amputation est-elle nécessaire?
J'y vais.
Ouais, vas-y.
Bon, moi j'ai un vrai goût pour l'horreur, alors c'est vrai que je me fais plaisir, j'écrivais des fois des choses assez ignobles. Et je vois dans les réactions des lecteurs quand je vais trop loin. J'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, il y a certaines scènes, enfin, Druid, mon gros bouquin, mon gros fantasy, il y a des lecteurs qui m'ont dit, ah, c'est bien, on accroche et tout ça, par contre, il y a des scènes où il ne faut pas les lire tout seul dans le noir, où ça remue un peu. Et donc, je me dis, ah, bah tiens, peut-être que pour un prochain bouquin, je devrais mesurer un peu plus certaines choses. Et après, c'est les goûts personnels des auteurs qui font qu'on emmène nos histoires dans des trucs horribles. Mais je ne crois pas que ce soit obligé, puisque Le Seigneur des Anneaux, j'en ai un lointain souvenir, je l'ai lu il y a longtemps. Mais dans le premier tome, peut-être après il y a des batailles et tout ça, mais dans le premier tome, en fait, c'est des petits gars qui crapahutent, tout le monde est super sympa et tout ça. Et il n'y a pas du tout de gore, pourtant on se laisse emporter, l'aventure avant tout, ou du coup pour extrapoler sur les bouquins de Cap et d'Épée, Dumas ou quoi que ce soit, il n'y a pas de gore du tout, mais pourtant l'aventure est omniprésente. Donc le gore, non, n'est pas obligé. S'il s'agit que c'est cool, ça fait plaisir à l'auteur, mais...
Voilà. Ah non, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai que le début de Seigneur des Anneaux, c'est un peu l'économie de vacances, hein, c'est peut-être un peu tout seul. Il ne se passe pas grand-chose de palpitant. C'est vrai que l'aventure, pour moi, effectivement, c'est difficile, mais c'est des contraintes, il se passe quelque chose qui va, comme on a dit tout à l'heure, modeler les personnages. Après, je ne pense pas que le gore soit obligatoire, en fait. C'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément perdre un an sur deux, soit avant la fin du voyage, pour que... l'aventure soit réussie en fait. C'est des contraintes, mais c'est des contraintes pas forcément difficiles. Quand ça reste généralement l'aventure, ça implique souvent le voyage. Donc ça sous-entend souvent dormir à même les caillasses, dans la forêt, sous la pluie, à la merci des bêtes sauvages, enfin, le camping dans toute sa splendeur. Mais effectivement, c'est l'aventure. Mais Oui, après, est-ce que ça doit être Go? Est-ce qu'on va forcément se faire déchiqueter un membre de la compagnie par un ours dès qu'on se pose en forêt? Pas forcément, je pense. Oh, oui, les contraintes sont difficiles, mais c'est pas forcément Go.
Je suis pas d'accord avec tout le monde, mais moi j'aime bien mettre beaucoup de gore, enfin gore dans le pas beaucoup de gore, mais de...
Pervers.
Non, c'est pas pervers un peu, non. Je suis un fan de bataille, surtout de bataille navale, et donc bataille navale réaliste, telle que décrit par exemple Patrick O'Brien, moi j'aime énormément décrire une version réaliste bataille navale par exemple, et les corps déchiquetés, les boulets qui arrachent les têtes, enfin bon, c'est, j'aime énormément ça. Et que ce soit des héros bien sûr, ou des secondaires qui sont tués, quoi. Et j'aime bien me... plonger dans une bataille de manière réaliste, et j'aime bien emmener le lecteur de manière réaliste pour montrer la face réaliste d'une bataille vraiment.
Si je peux me permettre. Si vous avez la médecine, vous pouvez lire.
J'allais juste dire un truc, c'est que peut-être que le gore aussi tient au fait que dans la plupart des univers fantasy, les gars, je suis désolé madame, donc il y a beaucoup de gars, ils ont beaucoup d'épées. Et quand on se tape dessus à coup d'épée, il y a beaucoup de sang. Alors que, mettons, imaginons un western fantasy, je ne sais pas, si on utilise plutôt des flingues, les règlements de compte vont plus vite, il y a moins de sang, ou c'est moins gore, il y a moins de membres tranchés.
Quand t'as le visage emporté, c'est
sûr. Voilà. Une balle. Mais, donc peut-être que du coup, les épées, ils sont aussi pour quelque chose, ou les couteaux.
On arrive à la fin de cette table ronde. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il pleut, il y a un autre café littéraire. Comment écrivez-vous dans l'atelier de l'écrivain avec Samantha Bailly, Mireille Calmen, Pierre Pépin, Magali Segura. Merci à tous et merci aux auteurs. Bon après-midi.